With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Salut à tous, je suis Maxime Dupuis, bienvenue dans le FC Stream Team. Salut Martin, alors je vous le dis tout de suite, c'est un Martin diminué,
ouais.
Amoindri,
oui.
Qui a fait l'effort de venir au bureau. Je ne sais pas si je vais le remercier d'ailleurs, parce que la dernière fois qu'il était diminué, amoindri, c'était autour de la dernière semaine de la Coupe du Monde, donc juste avant la finale.
Et je t'ai refilé mes merdes.
Tu m'as refilé tes merdes, mmh. Et je les traîne quand même depuis... un mois, donc quasiment jour pour jour. Et j'ai peur d'avoir une petite rechute ce week-end à cause de toi.
Moi, si je viens, Maxime, c'est avant tout pour ceux qui nous écoutent. Parce que moi, je suis qu'un serviteur de l'information. je suis là pour, un, pour te faire briller, et deux, pour faire rêver les gens.
Pour rendre malade.
Donc, ouais, et aussi pour te rendre malade. Donc, il me faudrait un 42 de fièvre et vraiment qu'on me coupe les deux jambes pour que je ne vienne pas faire le FC Stream Team dans ce joli petit studio.
Alors là, j'ai deux questions qui me viennent pour cette intervention fort-voyante.
Ouais.
Ceux qui t'écoutent n'ont pas besoin de te voir, finalement.
C'est vrai, mais c'est mieux de me voir, surtout quand tu vois le pull que je porte aujourd'hui.
Voilà. D'ailleurs, c'est...
je suis allé à la salle.
T'es allé à la salle.
Basic Fit.
Abonnement mensuel
à Basic Fit.
Et autre chose, 42 de fièvre. Je pense que 42 de fièvre, c'est...
qui passe, ouais.
C'est à peu près la mort.
Ouais.
Je suis pas médecin, j'y connais pas.
Plus. Je dis 42 parce que c'est un chiffre que j'aime bien. Mais
j'ai entendu qu'à 39,5 déjà, c'était pas forcément bon.
C'est vrai. Bah oui, 39, c'est déjà... pour l'avoir expérimenté il y a pas si longtemps, c'est déjà costaud, ouais. Mais bon...
T'as eu 37,2 le matin, c'est une fois.
Ouais. Mais bon, mais on va tenter de faire cette émission dans les règles de l'art.
Alors on va être sérieux en plus, parce que aujourd'hui, on fait l'émission en public.
C'est vrai. Et quel public ?
Quel public ?
Deux personnes quand même.
On a Prune.
Enfin, trois avec Antoine.
Oui, c'est vrai, mais Antoine est tout le temps là.
Ouais.
Prune et Louise, qui sont stagiaires troisième, si je ne m'abuse. Mmh.
Comme quoi, croyez en vos rêves, hein, parce que dès la troisième, vous pouvez assister au FC Stream Team. C'est quand même assez dingue.
Ouais, et on va leur proposer.
Je sais pas si elles se rendent compte de la chance qu'elles ont là.
Non, je crois pas. Pas encore. Après coup, peut-être.
Ouais, peut-être après coup, ouais.
Quand ils iront sur les réseaux, tout ça.
Ah, ouais. Bien sûr, quand elles diront à leurs copains, putain, j'ai vu Maxime et Martin. Alors, quoi ?
On va leur proposer, si elles veulent, j'ai bien si elles veulent, on n'oblige pas, d'intervenir à la fin de chaque sujet, si on a quelque chose à dire, elles veulent juger ce qu'on a dit, ou si elles ont un truc à rajouter.
Ok.
Donc voilà, on va leur dire, comme elles sont en face de moi, vous ne les verrez pas. Elle lève le doigt et puis si elles veulent parler.
Tu leur fous la pression là.
Non, mais si elles veulent parler. Ouais, parce que moi je suis dans le partage, tu vois. Il y a peut-être des vocations qui vont naître.
Ouais.
Je sais pas si elles veulent devenir. Est-ce qu'il y a une de vous deux qui veut faire du journalisme ? Non, a priori non.
Donc ça part pas bien.
Alors déjà, un, c'est plutôt une bonne idée.
Oui.
Peut-être, mais.
Voilà. Non, on suscite des vocations.
Alors, si vous ne les entendez pas, elles n'ont pas de micro, elles disent si vous nous donnez une bonne impression. Donc là, on a la pression.
C'est mal barré alors pour leur carrière.
Ça dit, on se marre. Hein.
On se marre. On n'est pas bien. C'est vrai. Gagner de l'argent en racontant des conneries, il n'y a pas grand monde. Hein.
C'est vrai, c'est ça.
Oh, j'aimerais bien en gagner un peu plus parfois.
Il faut des meilleures conneries.
Ouais, c'est ça.
L'émission, comme d'habitude, est à retrouver sur toutes les plateformes, les bonnes, les mauvaises, Acast, Apple, Deezer, Spotify, etc. Évidemment, je ne donne jamais dans l'ordre des bonnes ou des mauvaises. Hein. Sachez que c'est vraiment un ordre au hasard qui vient dans la tête, donc vous nous retrouvez partout. N'oubliez pas de vous abonner. Il y a Grégory hier qui est venu me voir sur Instagram, qui m'a d'ailleurs posé une question à laquelle je n'ai pas su répondre. Est-ce que les footballeurs ont toujours un nouveau maillot à chaque match ? Je pense que oui, puisqu'ils les revendent de toute façon.
Oui.
Pour les chaussures, je ne suis pas sûr. Ça, mais
non, parce qu'il faut qu'elles soient faites.
Il faut qu'elles soient faites, voilà. Et Grégory me demandait, mais comment je peux mettre des commentaires ? Alors, je lui ai dit, écoute, faut que tu ailles sur Apple, parce que c'est là que je sais le faire.
Ouais,
donc
c'est vrai.
Voilà.
Ou tu viens nous chercher sur Twitter, ça a bien marché pendant la Coupe du Monde, il n'y a pas de raison. Et pour retrouver les vidéos, c'est évidemment sur eurosport.fr. Vous pourrez voir Maxime tout de noir vêtu.
Non, c'est bleu marine.
Ouais, mais à l'antenne, c'est noir, si je puis me permettre.
D'ailleurs, petite parenthèse, c'était la thématique de Mercredi Mercato où c'était Six Feet Under, tout ça noir. J'ai l'impression qu'il fêtait. Enfin, il fêtait. Il y avait quelque chose de très triste à annoncer. Et enfin, leur prestation au Mercacu, oui, ça devait être ça.
C'était un peu ça, j'imagine. On y va, Maxime. Trois sujets aujourd'hui.
C'est parti.
Trois sujets aujourd'hui. On va parler évidemment du Paris Saint-Germain à un peu moins d'un mois. Je crois que c'est le 14 février
hein. À Saint-Valentin.
Le huitième de finale face au Bayern Munich. Paris, qui reste sur deux défaites en 2023 en Ligue 1. On reviendra aussi sur le match amical qui a beaucoup plu à Maxime hier à Riyad. Et on se posera cette question à donc moins d'un mois du choc face au Bayern. Est-ce qu'il faut être inquiet pour le Paris Saint-Germain ?
On parlera aussi de Mercato. On restera en Ligue 1 et avec un peu de Première Ligue. Et on va parler du drôle d'attelage. C'est peut-être passé inaperçu entre Lorient et Bournemouth. Expliquer pourquoi ce genre d'attelage est une catastrophe absolue pour le football, parce qu'on est complètement en train de détruire ce qui faisait le sel du jeu que l'on aime.
Maxime, je ne sais pas si c'est le public qui t'inspire, mais en tout cas là, tu es parti sur façon plume du 17e siècle, littérature anglaise. L'Angleterre justement, on finira par ça avec Hugo Lloris, qui s'est encore un peu troué quand même hier face à Manchester City. Ça fait beaucoup de boulettes pour le gardien des Bleus. Et on va se poser cette question, quelle mouche a piqué Lloris ? Comment on peut expliquer les contre-performances du gardien de l'équipe de France qui avait été si bon au Qatar et qui est si fébrile depuis.
Une défaite à Lens, une défaite à Rennes. Le Paris Saint-Germain n'a pas redémarré l'année sous les meilleurs auspices. L'après-Coupe du Monde est un chouïa difficile. On pouvait s'y attendre, mais on est en droit aussi d'être inquiet puisque le Bayern Munich, le grand rendez-vous du Paris Saint-Germain, c'est dans moins un mois, le huitième de finale face au géant allemand. Est-ce que ce que tu as vu, Martin, depuis la reprise, et surtout à Rennes, on parlera évidemment du match amical, amical, je ne sais même pas ce que c'est, de gala d'hier versus Ronaldo en Arabie Saoudite, après, mais est-ce que ce que tu vois depuis la reprise est de nature à t'inquiéter pour le Paris Saint-Germain en vue de ce huitième de finale ?
Alors, moi, ce qui m'inquiète, c'est, on en a déjà parlé ici la semaine dernière, c'est donc la réaction post-Coupe du Monde des stars du Paris Saint-Germain, Messi, Mbappé, Neymar, qui vont, donc il y a un risque de décompression, d'usure physique, etc. Et quand on regarde par rapport au Bayern Munich, qui, lui, a fait une pause et qui ne reprendra la compétition que ce samedi et ce dimanche,
non, le Bayern Munich... Vendredi.
Ouais.
Enfin, week-end.
Vendredi, samedi, dimanche, ce week-end. Donc, on a quand même un Paris Saint-Germain qui joue depuis, qui a repris la compétition depuis trois semaines, qui n'a pas fait de pause depuis la Coupe du Monde. Et ça, oui, ça me pose un gros problème quand on voit la réaction du Paris Saint-Germain depuis la reprise des hostilités, tout en sachant que le Bayern, lui, il a petite pipe au bec, les pantoufles, et il est tranquillement dans son rocking chair. Joshua Kimmich a parlé qu'il était quasiment en post-dépression d'après Mondial, après la grosse déculottée de l'Allemagne, et que c'est ses enfants qui l'ont empêché de sombrer dans la dépression. Mais lui, il a eu au moins le temps de, je ne sais pas, de digérer, peut-être pas, mais au moins d'affronter cette frustration-là, ce qui n'a été ni le cas de Kylian Mbappé, ni le cas de Neymar. Et dans le cas de Messi, lui non plus n'a pas eu le temps de digérer ce qui l'a amené au sommet du football mondial. Donc moi, c'est plus ça, c'est cette dichotomie entre le calendrier du Paris Saint-Germain qui nous a montré depuis quand même quelques semaines, quelques jours, que ce n'est pas le PSG d'avant Coupe du Monde, et le Bayern Munich qui, lui, décompresse, chasse ses démons et ses fantômes pour revenir tranquillement à la compétition.
On avait l'impression que ce PSG avait changé. On s'en est même félicité cet été. Justement, la venue de Christophe Galtier était un message très fort. Campos aussi, le recrutement aussi qui ressemblait enfin à quelque chose de moins bling-bling mais plus, on va dire, raisonné sur la construction d'une équipe. La première partie de saison aussi avait laissé penser que ça irait très bien et on savait que la Coupe du Monde marquerait une rupture. Alors, il était impossible de savoir de quel ordre, c'est-à-dire est-ce que ce serait Messi, est-ce que ce serait Neymar, est-ce que ce serait Mbappé, est-ce que ce serait un manque de rythme. Là, on est en plein dedans et en fait, on est peut-être en train de se dire que finalement, ce PSG n'a peut-être pas tant changé que ça. Et moi, ce qui m'inquiète, encore une fois, je ne vais pas... Alors, le match d'hier, on en parlera. Je ne surinterprète pas ces matchs-là. C'est vraiment des matchs à la con, on va dire.
On peut le dire.
De toute façon, c'est du match pour faire du fric, voilà, tout simplement. Ça ne rime à rien. Je trouve même aberrant que le Paris Saint-Germain... Enfin, aberrant, pas pour ses finances, mais sportivement, qu'il aille... en Arabie Saoudite pendant trois jours jouer ce type de match. D'ailleurs, j'ai entendu un supporter qui disait sur une radio que c'est bien parce qu'ils allaient avoir chaud, ça allait les changer. Ouais, la dernière fois qu'ils avaient eu chaud, qu'ils étaient revenus, ils avaient pris 600 en Coupe des Coupes, en finale de la Super Coupe d'Europe face à la Juve. Alors, évidemment, il y avait moins de temps, mais j'ai l'impression qu'on n'apprend pas en fait, quel que soit le temps qui passe. En fait, ce qu'il va falloir faire dans les jours à venir, et sans doute Galtier a déjà commencé, c'est de faire attention que ça ne s'installe pas, en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu Lens, ok. Il y a eu Rennes, Ok, il y a des difficultés souvent, même en Ligue des Champions.
Et ces deux matchs, vous avez été dominés. Hein, voilà. Parce que parfois, Paris a laissé des points en Ligue 1 sur des, des coups du sort. Là, c'est deux matchs où ils ont été dominés.
Ouais. Et donc, important vraiment, parce que l'année dernière, souvenez-vous, avec Pochettino, c'était toujours le même discours. Ça ira mieux demain. De toute façon, ce qui compte, c'est le huitième de finale, etc. On a vu et on n'a pas été déçus. Galtier, il faut très, très vite qu'il serre la vis et qu'il dise « Ok, là, ça ne va pas, on va faire comme ça. » Et moi, je pense qu'il doit aussi frapper fort, même avec les stars. C'est-à-dire que s'il y en a une qui n'est pas au niveau, il faut à un moment oser. Voilà. Oser dire
« Mettre Neymar sur le banc. »
Par exemple, t'es moins bon, tu vas sur le banc. C'est pas une solution à long terme, mais marquer le coup parce que tant qu'on est toujours dans la cajolerie et dans le dire on les supporte, on fait attention à eux, ça n'ira pas. Donc à un moment, il faut qu'ils soient traités pareil. L'autre problème aussi du Paris Saint-Germain, c'est un Vitinha, par exemple, au milieu de terrain, qui est beaucoup moins bon qu'en début de saison. Ramos, qui aujourd'hui ne met plus un pied devant l'autre. Donc voilà, il y a vraiment une conjonction de choses qui sont liées. Et peut-être que Ramos sait qu'il y a eu ce mois d'arrêt qu'il a du mal à digérer. Peut-être que le PSG va monter en puissance. Mais en tout cas, vraiment, il faut stopper cette spirale et faire attention au discours que Galtier ne tient pas du ça va mieux aller. Non, il faut très vite trancher dans le vif.
Moi, il n'y a encore rien qui m'alarme, qui m'inquiète, qui m'empêche de passer des bonnes nuits. Mais s'il y a quand même un point sensible pour moi, et tu viens de l'aborder, c'est quand même cette charnière centrale qui, pour moi, au-delà de ce qui s'est passé depuis la reprise, au-delà de ce qu'on a vu hier en match amical où Ramos a été complètement dépassé par Ronaldo ou par le Coréen là, qui met le but sur le corner. C'est vraiment, au-delà de ça, c'est la perte d'autorité totale de la charnière du PSG, incarnée par Marquinhos, qui a passé une Coupe du Monde très délicate, qui, avant la Coupe du Monde, c'était déjà compliqué. Depuis, c'est toujours très compliqué, et qui, globalement, depuis un an et demi, voit son autorité s'effriter dans les grands matchs. Ramos, tu l'as dit, Lens, Rennes, voilà, je dis encore en Arabie Saoudite, il a montré que lui, contrairement à d'autres dans cet effectif, faisait son âge. Et pour moi, Ramos, c'est presque la limite de la logique Disneyland.
Ah bah oui.
De la logique Disneyland de ce Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que t'as Ramos, bah, t'es obligé de le faire jouer quand il n'est pas blessé. Et tu vois que là, ça a déjà coûté des points en Ligue 1. Et pour moi, c'est ça le grand danger qui guette le Paris Saint-Germain. D'autant que finalement, les alternatives, elles n'existent pas tant que ça, sauf à faire un coup sur le marché des transferts au poste de défenseur central, ce qu'il faudrait absolument. Parce que Kimpembe, il est blessé, il revient dans le groupe. Bon, bah, même avant sa blessure, Kimpembe, ce n'était pas ça. Donc moi, si au-delà des trois qui, je pense, peuvent se remettre à l'endroit pour un match du standing d'un huitième de finale face au Bayern Munich, je pense que Mbappé, Messi et Neymar, alors voilà, on verra, mais je pense qu'ils peuvent quand même se mettre à la hauteur du rendez-vous. J'ai des gros doutes sur la charnière centrale et pour moi, c'est ça vraiment le danger qui guette le Paris Saint-Germain.
Ouais, moi, le doute que j'ai sur les trois devant, mais c'est le même que l'année dernière. Alors, il y a eu du mieux, notamment au premier tour de C1, c'est-à-dire c'est le fameux 7+3, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont capables de défendre ensemble. On sait que Neymar a fait les efforts. Après, ça, on verra et ça passera par là. Mais c'est vrai que, alors je ne vais pas dire que Galtier est prisonnier du talent d'un joueur comme Neymar, mais il y a un peu de ça parce que vous dites, bon, je vais le mettre sur le banc, mais le problème, c'est que sur deux coups de patte, il peut faire la différence. À Rennes, c'est pas dingo, mais à un moment, il y a cette ouverture, je crois que c'est en seconde période, assez lumineuse, du pied droit vers je ne sais plus qui. Mais en tout cas, voilà, il y a toujours ce petit coup de patte qui fait que vous dites « Ah oui, mais si je le sors, je perds ça ». Mais à un moment, je pense que c'est aussi… C'est faire finalement un peu des symboles, c'est-à-dire piquer au vif des joueurs, leur dire « Écoute, tu vas sur le banc là, c'est moins bon, et ça ne veut pas dire que tu es condamné, mais simplement montrer que… » Ouais, faut pas tomber dans le ça ira mieux demain.
Ouais. Pour moi, le problème de mettre Neymar sur le banc et même n'importe quelle star du Paris Saint-Germain, c'est qu'il y a un tel écart entre le niveau des titulaires et ceux des remplaçants. C'est pour faire rentrer qui ? Alors oui, Kitike a marqué quelques buts.
Oui, mais tu l'as créé cet écart.
Oui,
tu l'as voulu au fond.
Oui, tu l'as voulu. C'est-à-dire que t'es sur des bons remplaçants qui ne disent rien versus des gigastars, les plus grandes stars du football. Et du coup, il n'y a pas d'entre-deux.
Voilà.
Et c'est ce qui t'empêche aussi de participer, de mettre en place un turnover, de mettre des mecs sur le banc. Parce qu'au final, tu sais que tu perds tellement que le jeu, on ne vaut peut-être pas la chandelle. Quoi.
Le Casarabia qui est parti, c'est vraiment ça. On est content qu'il ne dise rien. Mais le problème, c'est comme il ne dit rien, il ne joue jamais. Et quand il joue, en gros… Il est nul parce qu'il n'a pas de rythme. Alors évidemment il y a une part de faute parce qu'on va dire oui, il faut prendre sa chance quand on nous la donne. Mais le problème c'est que des fois c'est rare et des fois c'est pas évident. Donc voilà, et Kitike, pour le coup, il a un peu de mérite d'avoir eu un début de saison un peu la tête dans le seau et d'avoir su un peu relever le niveau alors qu'il est jeune. Donc ça, là-dessus, respect à lui, mais c'est compliqué. Voilà. Donc la meilleure chose qui pourrait arriver au PSG, finalement, c'est que bah, les 11 habituels jouent bien.
Merci Maxime pour cette petite conclusion qui tombe sous le sens.
Qui tombe sous le sens.
Passe au deuxième sujet, Maxime.
On va peut-être proposer à nos invités, si elles veulent intervenir, dire quelque chose.
Une petite intervention sur le Paris Saint-Germain, Messi, Neymar, Mbappé.
Non,
merci
ça,
beaucoup.
On n'a pas dit trop de bêtises, vous pouvez nous corriger. Hein.
Non, ça va.
Ça va.
Bon. Ça va. Alors, je ne sais pas si vous entendrez, mais elles disent non, ça va.
Oui.
Donc, écoute, jusqu'ici.
Jusqu'ici, tout va bien, Maxime.
Tout va bien.
Jusqu'ici, tout va bien. On va parler d'un deuxième sujet. Et force est de constater que dans le FC Stream Team, on parle assez peu de Lorient et de Bournemouth, d'habitude. Ouais, mais là, ça nous a chiffonné, ça nous a énervé, ça nous a agacé. Petit rappel des faits pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité de ces deux clubs. Bournemouth est devenu la semaine dernière actionnaire minoritaire de Lorient à hauteur de 40%. William Follet, qui est un milliardaire américain, qui a fait fortune dans l'immobilier, dans l'assurance ou dans les services financiers, il s'est lancé dans le sport en 2010 et il a racheté Bournemouth le 13 décembre. Bournemouth, donc, club de première ligue. Un mois plus tard, donc, il a pris 40% dans les parts du FC Lorient. Et, il me semble que c'était jeudi, Dango Ouattara, un des attaquants, un des joueurs vedettes du FC Lorient, qui fait un super début de saison, a donc quitté Lorient pour aller à Bournemouth contre un chèque de 27 millions d'euros. Sachant que Ouattara, sa cote sur le marché des transferts, si on se fie à Transfermarkt, alors c'est, voilà, c'est pas du 100%, mais ça donne une certaine idée. Sa cote était donc trois fois moins chère, 10 millions d'euros. L'an dernier, Ouattara, c'est un but, par exemple, sur la saison, alors que cette année, c'est 6 buts, 6 passes décisives. Mais bon, 27 millions d'euros, le transfert le plus cher de l'histoire de Lorient. Voilà, on remarque qu'il y a sans doute un tour de passe-passe là-dedans. Ça nous a énervés, mais je vais d'abord laisser Maxime nous donner son avis là-dessus, sur ce qu'on pourrait presque appeler du dopage financier.
Ouais, pour ceux qui nous suivent régulièrement, on n'en parle pas souvent de ces sujets-là, je trouve, mais tout ce qui a trait à la multipropriété, de toute façon, me rend dingue, tout simplement, dans le sport. Il faut juste rappeler au départ ce qu'est le sport, le football. C'est un jeu. Voilà. Personne n'a dit à un moment qu'il fallait avoir des entreprises cotées en bourse, qui gagneraient énormément de pognon, et qui seraient obligées finalement d'en arriver à ce genre de tour de passe-passe pour exister. Parce que c'est ça au fond. Bournemouth fait ça dans un intérêt, aussi bien le milliardaire fait ça de Follet pour des raisons fiscales, financières, mais aussi de trading. Mmh. C'est-à-dire qu'il sait qu'il va faire progresser son club en achetant 40% d'un club comme Lorient, qui pour le coup sort de très bons jeunes. Donc en gros, ce que ça dit aussi, et je suis content d'ailleurs d'avoir vu une lettre ouverte des Merlus Ultra 1995, qui disent « le FCL n'est pas une succursale ». Voilà. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire que ces types-là, milliardaires américains, ils viennent d'un modèle de sport US avec des ligues fermées où, vous prenez l'NBA, il y a des équipes, les fameuses équipes de G-League, qui sont des succursales, là pour le coup. Mais les deux ligues n'ont pas de lien entre elles. C'est-à-dire que l'équipe qui est la succursale des Golden State Warriors, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais en tout cas, elle ne va jamais affronter les Golden State Warriors. Aujourd'hui, avec la multipropriété, il se peut qu'un jour, alors ça ne sera pas possible, on va vous expliquer pourquoi tout à l'heure, que Bournemouth et Lorient se rencontrent en Coupe d'Europe. Mais on fait quoi là? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est-à-dire qu'on aura toujours le doute. Je veux dire, un club devrait appartenir à une seule entité, tout simplement, et non pas se partager ça, parce que, encore une fois, c'est pas Nestlé, c'est pas L'Oréal, c'est pas le monde des affaires, on est dans du football. Et c'est du sport à la base. Et moi, ça me rend dingue de voir ça, et je pense aux Lorientais qui se font prendre un joueur. Le supporter Lorientais, qu'est-ce qu'il en a à foutre que son club récupère 27 millions d'euros? Il est content, il regarde les... Ça fait penser à Monaco, hein. Il va regarder quoi, les bilans financiers? Il dit ouais, super, là on est dans le vert. Non, ça c'est pas son problème. Lui, c'est que son équipe marche, et son équipe marchait très bien.
Voilà, c'est ça, c'est que Lorient est 7e de Ligue 1, Lorient peut... très honnêtement, se battre pour les places européennes, le top 5, voire même un peu plus. Qui sait, il y a Mofi, il y a Le Fay, il y a Ouattara. Et là, au beau milieu de la saison, on les coupe de leur force vive, parce que là, on parle de Ouattara, mais il se pourrait aussi que Le Fay rejoigne Bournemouth cet hiver, sauf que lui, il veut rester à Lorient jusqu'à la fin de saison. Manque de bol, épine dans le pied du nouveau propriétaire. Mais là, en fait, on flingue une saison au beau milieu du mois de janvier pour un tour de passe-passe financier qui est assez terrible. Mais le plan initial de Follet, c'est donc d'avoir quatre clubs dans des ligues différentes, de prendre des joueurs et de les mettre un peu dans ces quatre clubs, de faire tourner un petit peu, et puis que les meilleurs joueurs arrivent à Bournemouth pour qualifier Bournemouth en Coupe d'Europe, que ça fonctionne bien en Première Ligue parce que c'est là qu'il y a le plus de fric. Et donc, en fait, c'est de se servir de Lorient comme d'un vulgaire tremplin, j'allais dire presque comme d'un vulgaire paillasson, pour que Bournemouth arrive à ses objectifs initiaux. C'est avoir si peu de considération pour un club comme Lorient qui, en plus, a... Voilà, c'est un club qui a formé des joueurs, c'est un club qui avait une vraie spécificité régionale, c'est un stade, c'est une histoire, c'est voilà. Là, on a l'impression que tout ça est un peu balayé d'un revers de main. Alors oui, Ferry reste actionnaire majoritaire, mais malgré tout, quand on voit ce qui se passe là, moi, je trouve que c'est ni plus ni moins que la mort du football tel qu'on... tel que tu le définissais tout à l'heure.
Et là, on parle de Bournemouth et Lorient, mais alors il y a aussi le système des clubs satellites où là, il n'y a pas d'achat.
Mais là, c'est un peu ça aussi.
C'est exactement ça, ouais. Sauf que là, c'est encore... C'est cynique, au fond, ouais. Parce que là, c'est... Bah non, on a payé, donc on va faire ce qu'on veut.
Parce que quand même, le mec paye 27 millions d'euros de sa poche.
Mais qui remet dans sa poche.
À un club dont il détient 40% du capital. Donc, voilà. C'est un peu comme quand je faisais des parties de Football Manager et que je prenais une équipe pourrie et que je faisais des gros transferts avec l'équipe que j'avais en sous-main. Enfin, ça
et
n'a
on
aucun
sait que la FIFA veut, alors je sais pas où il en est, bah, parler de limiter, justement, d'interdire plus ou moins ces clubs satellites, enfin, du moins des mesures, enfin, avec les limitations des prêts, parce qu'il y a ça aussi. Il y a le côté. Regardez, Manchester City est 3. Là, c'est pas du rachat, mais quand même. 3. Alors, ils trouvent peut-être leur compte, mais ils récupèrent les joueurs que City ne peut pas faire jouer. Mais dans un monde idéal,
c'est la poubelle.
Dans un monde idéal, et oui, ils viennent présenter le trophée de Première Ligue au Stade de l'Aube une fois tous les ans. Là, ça fait vraiment, donnez les gars, on vous donne ça à manger. Voilà. Qu'est-ce que les Troyens, on en a à faire de voir le trophée de la Première Ligue. Enfin, à part, il y a peut-être des supporters à Manchester City, mais à part les couleurs communes, le bleu, et encore, c'est pas les mêmes tons. Bon, bref. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'on condamne. Enfin, en plus, ça sera toujours les clubs français qui seront perdants parce qu'ils ne sont pas assez puissants. On condamne le club français à être une succursale et à toujours être dans l'ombre de la superpuissance et de la Première
Ligue.
Puis là,
on parle de Bournemouth, hein. C'est pas non plus
voilà.
Et en plus, Arsenal.
Là, voilà, c'est pas Arsenal. C'est pas. À un moment, il y avait des liens entre Arsenal et Lorient, les joueurs qui partaient là-bas. Mais à la rigueur, des fois, il y a des liens normaux, on va dire, comme des réseaux, des choses comme ça. Mais là, c'est d'un cynisme absolu et on tue. Enfin, Lorient qui fait une super saison, on les flingue pour des raisons financières. Moi, je serais Régis Lebris, je serais fou de ça. Alors, évidemment, il sait, c'est le business, mais là, je trouve que ça va trop loin. Il faudrait interdire ce genre de choses parce que on n'y arrivera jamais. Et si les clubs, il faut le dire, sont obligés de faire ça aujourd'hui, les clubs français, alors on va me dire, oui, il y a eu le Covid, il y a eu tout ça. Oui, non, c'est parce que les finances, c'est constamment dans le rouge et que maintenant, on appelle CVC, on revend les bijoux de famille pour ramener de l'argent dans les caisses. Mais le problème, c'est que cette fuite en avant, elle a existé financière, elle a existé avant le Covid. Ouais, donc en gros, tant qu'ils paient, ils perdaient de l'argent avant, ils en perdront après et on en est toujours à arriver à ça. Et on se dit, qu'est-ce qu'on va faire pour ne pas être dans le vert ? Eh ben, on vend notre âme au diable et c'est ce qui est en train d'arriver.
Mais pourquoi aussi les Américains sont en train de fondre là ? On voit John Textor aussi à Lyon. C'est aussi parce que, en Angleterre, on a acheté tout ce qu'ils pouvaient acheter et que les clubs français coûtent nettement moins cher.
C'est ça.
Deux, en Allemagne, il y a la règle du 50+1, c'est-à-dire que des fonds étrangers ne peuvent pas détenir la majorité d'un club de Bundesliga. En Italie, le problème, c'est les infrastructures qui sont vétustes. Et voilà, y a... Et en Espagne, on a quand même une culture du socios. Donc, la France est la cible idéale. En plus, tu l'as dit, ce sont des clubs et des finances qui sont fragiles depuis des années et des années, même si je pense qu'effectivement, la crise de Média Pro et Covid n'a pas arrangé les choses. Donc, la France va devenir le paillasson des grands clubs européens.
Et puis, il y a ces jeunes joueurs, ce trading qui est fantastique. C'est-à-dire que même Lyon, un achat comme Lyon, alors évidemment, on peut dire ce qu'on veut des Lyonnais qui ne sont peut-être pas aussi bons qu'on les voit généralement. Enfin bon, de l'Académie, il y a quand même des très bons joueurs, notamment Ballon d'Or qui est sorti de là. Donc, c'est de se dire, écoute, c'est pas mal, on peut faire des bonnes affaires. Et c'est dramatique. Après, moi, je ne suis pas contre le rachat par des investisseurs étrangers. Alors là, mais vraiment, ça ne me dérange pas que McCourt soit à Marseille, par exemple. Ce n'est pas un problème. Ce qui me pose problème demain, c'est si l'OM devient un satellite de Chelsea, par exemple, qui se fait prêter les joueurs. Alors là, on va dire, ah ouais, super, parce qu'il y a des joueurs que l'OM n'aurait pas pu se payer. Oui, sauf que l'OM serait condamné
à
toujours être dans l'ombre d'un club comme Chelsea. Et si un joueur est condamné à ne jamais avoir d'ambition européenne, alors vous allez me dire, ils se font sortir tout le temps au premier tour de la Ligue des Champions. Oui, peut-être, mais t'es pas à l'abri qu'un jour, y ait plus d'argent, que ça se retourne. Voilà. En fait, c'est ce qui est gênant là, c'est vraiment ce traitement de la Première Ligue ou des investisseurs de Première Ligue qui prennent les autres ligues pour des succursales en otage et qui agissent comme une ligue fermée. C'est sûrement leur but à l'arrivée, mais c'est gênant parce qu'encore une fois, moi j'attends le jour où il y aura une confrontation en Coupe d'Europe entre deux clubs qui s'affrontent à très haut niveau. Et là, bah, ça sera toujours accompagné du doute.
On termine cette émission, Maxime, avec Hugo Lloris.
Ouais.
Hugo Lloris qui s'est encore troué jeudi face à Manchester City. Deux boulettes sur le premier but de City et sur la frappe de Mahrez au premier poteau. Ça commence à faire beaucoup parce que face à Aston Villa, il avait relâché un ballon dans les pieds d'un attaquant de Villa. Il avait concédé l'ouverture du score. Et puis, face à Arsenal, il y a le premier but contre son camp de sa carrière. Sa carrière tout court, d'ailleurs. Mmh. Et ça commence un petit peu à gronder du côté de l'Angleterre sur Hugo Lloris. On va se poser cette question. Qu'est-ce qui lui arrive ? Pourquoi Hugo Lloris a autant de mal en ce moment ? On va prendre quelques déclarations de spécialistes ou d'observateurs de Première Ligue. Graeme Southness, qui était l'ancien entraîneur de Liverpool, qui disait donc, il y a quelques semaines, je n'ai jamais été un grand fan de Lloris, pour moi sa date de péremption est passée. Violent. Et Chris Sutton, qui écrivait, je crois que c'était dans le Daily Express, un journal qui n'est pas connu pour la
mesure de ses propos.
La mesure de ses propos, merci. On ne peut pas nier qu'il est devenu un handicap, Hugo Lloris. Alors,
tout dans la mesure.
Pourquoi Hugo Lloris débranche ? Maxime, j'aimerais avoir ton explication là-dessus.
Alors déjà, j'aime beaucoup Graeme Souness. Il y va un peu fort, on va dire. Moi, je pense que là, ce qui lui arrive actuellement, alors c'est dommageable évidemment pour lui, c'est dommageable aussi pour Tottenham, parce qu'évidemment, ça fait perdre des points et ça ne fait pas sérieux. Mais ça me paraît trop gros pour être vrai, entre guillemets. C'est-à-dire que je pense qu'il est en train de payer la décision d'arrêter sa carrière internationale, évidemment non pas sportivement, mais le lundi soir où il l'annonce chez nos confrères de l'équipe sur TF1, j'en ai déjà parlé ici, il me semble, je le revois interrogé par nos confrères de l'équipe, et je n'ai pas reconnu Hugo Lloris ce soir-là. C'est-à-dire dans le sens où on sentait, il a parlé d'une chape de plomb, d'un poids qui lui pesait parce que l'équipe de France, parce que sortir d'un tournoi vidé. Et on l'a senti, on l'a vu sourire et vraiment c'était un soulagement. C'est-à-dire bon, ça y est, c'est terminé. C'est un poids qui... Et là j'ai l'impression que le relâchement finalement, il va trop loin et il est hyper spectaculaire. Vous ajoutez ça en plus à une finale de Coupe du Monde perdue. Je pense vraiment que au-delà d'un déclin aussi spectaculaire et aussi ramassé dans le temps, qui pour moi ne fait pas de sens, alors je ne dis pas qu'il n'est pas en train de décliner, mais là c'est vraiment, encore une fois, ça me paraît trop spectaculaire pour être vrai. Je pense que là il est encore dans la digestion, il faut juste espérer pour lui et pour Tottenham que la digestion ne dure pas trop longtemps, sinon ça va devenir difficile.
Il faut se souvenir, en 2018, la France est championne du monde, et il faut se souvenir de ce qui se passe avec Hugo Lloris dans les jours et les semaines qui suivent. Il reprend très vite la compétition, comme ça a été le cas en ce mois de janvier, et il traverse peut-être le moment le plus délicat de sa carrière à ce moment-là. Donc la France vient d'être championne du monde. En 2018, donc en septembre 2018, il a suspension de permis parce qu'il est, il est arrêté par les flics et il est en état de... Enfin voilà, son taux d'alcoolémie est deux fois, je crois, supérieur à...
DUI.
Voilà, à ce qu'il devrait être. Donc voilà. Derrière, la presse anglaise le démolit en priant Mauricio Pochettino de lui retirer le brassard de capitaine à Tottenham. Et puis, il se blesse, il rate le premier rendez-vous de l'équipe de France et la présentation de la Coupe au Stade de France. Enfin, il est là, mais en survêtement. Il se blesse quelques semaines. Et bon, voilà, il y a une décompression totale. Il y a cet épisode délicat. Et on peut mettre en parallèle ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire, alors là, c'est uniquement sur le terrain. Donc, je pense que la tempête, elle est un peu moins forte qu'il y a quelques temps. Mais de la même façon, l'Angleterre le vilipende, lui reproche pas mal de choses. Il faut se souvenir aussi que Lloris a sorti l'équipe d'Angleterre il y a un peu plus d'un mois. Mais moi, je pense que, comme tu le dis, c'est une décompression d'après Coupe du Monde. Et moi, je pense qu'effectivement, quand tu dis sa retraite internationale, il s'est rajouté une difficulté. C'est-à-dire que déjà, tu as la difficulté de redescendre sur terre après la Coupe du Monde, même s'ils ne l'ont pas gagné. Mais en plus, tu rajoutes cette charge émotionnelle. Et en plus... la retraite internationale de Lloris, c'est pas comme la retraite internationale de Raphaël Varane. Lloris, sa carrière, c'est l'équipe de France à 80%. C'est-à-dire que ce qu'on retiendra, une fois que tout sera terminé, on retiendra l'équipe de France. On retiendra assez peu, finalement, Tottenham, Lyon et Nice. Donc, il a rompu le lien qui le maintenait avec l'excellence, le très très haut niveau, ses plus beaux souvenirs, etc. Et je pense qu'il ne faut pas minimiser ça. Et comme tu le dis, je pense que c'est ce qui explique la tempête actuelle.
Alors maintenant, la question qui se pose, c'est, tu as dit, il a rompu le lien avec le très haut niveau. Alors très très haut niveau avec l'équipe de France. Donc en gros, c'était son moteur.
Oui, je pense.
Et en 2018, il y a cette histoire incroyable, parce que je me souviens bien quand ça tombe sur les fils d'information. Oui. On se demande s'il n'y a pas une connerie. Lloris arrêté en état d'ébriété, ça paraît quand même le truc le plus improbable de l'année. C'était vrai, il avait décompressé, comme tu as dit. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, il y a eu la blessure, mais il est revenu parce qu'il y avait la carotte équipe de France. Maintenant qu'il n'y a pas la carotte équipe de France, alors encore une fois, il y a toujours tout ce qu'on va vous dire, c'est un compétiteur, etc. Oui, mais n'empêche, comme tu l'as dit, c'est le moteur de sa carrière, c'est vraiment le... Est-ce qu'il serait resté à Arsenal toute sa vie ?
À Tottenham.
Arsenal, oui, le lapsus. Est-ce qu'il serait resté à Tottenham toute sa carrière, ou quasiment, enfin du moins pendant 10 ans, s'il n'y avait pas eu l'équipe de France qui remplissait, on va dire, ce plein. Parce que voilà, il n'a pas gagné de titre avec Tottenham, il a failli gagner la Ligue des Champions, il est allé en finale, mais le sel, finalement, il le trouvait avec les Bleus, et il avait un équilibre, on va dire, dans sa vie de gardien à Londres, à Tottenham. Là, le truc, c'est qu'il se retrouve dans une situation où il n'y a plus à se dire « faut que je sois là en mars ». Alors évidemment, il avait sa place quasiment réservée. Avant de le bouger, il aurait fallu vraiment beaucoup de boulettes en équipe de France. Mais il y avait au moins ça qu'il maintenait. Maintenant, la question, c'est très psychologique finalement. C'est est-ce qu'il va pouvoir et quand va-t-il pouvoir se retrouver un but pour repartir à la hausse ? Parce que là, son challenge, c'est une nouvelle carrière qu'il découvre. Parce qu'il y a eu le début de carrière, il n'y a pas l'équipe de France. C'était un début de carrière, donc le but, il est évident. Après, il y a eu l'équipe de France pendant 15 ans de sa vie. Maintenant qu'elle n'est plus là et qu'il a encore envie de jouer, il faut qu'il arrive à trouver ce petit sel qui va le faire repartir.
Et puis, il voulait terminer l'équipe de France au sommet. Je pense qu'il voudra arrêter sa carrière aussi au sommet. On ne parle pas encore de dégringolade parce que voilà, ça fait quoi ? Ça fait 17-18 jours qu'il est vraiment en difficulté en première ligue. Il faut se souvenir aussi de sa Coupe du Monde. On ne va pas le condamner tout de suite, quand même, Hugo Lloris. Hein. On ne va pas dire que c'est la fin de sa carrière à Tottenham. Mais c'est sûr qu'il est face à un challenge qui est rude. Quoi.
Ouais, voilà. C'est vraiment le jeu médiatique. Ça. Je pense à Saunders qui dit qu'il a atteint la date de péremption. Vous savez, c'est pendant que ça se passe, pendant la Coupe du Monde, on ne l'a pas entendu dire qu'il a atteint sa date
c'était
de péremption.
Un mois, hein. Ouais.
Après le quart final, je pense que je ne sais pas s'il a donné son avis, mais en tout cas, ça ne devait pas être celui-là. Et c'est des petites musiques que vous gardez et vous dites attends, je vais le sortir au bon moment. Là.
Ouais.
Puis bam, il se plante. Allez, vas-y, on arrose. Voilà, c'est toute la mesure du journalisme aujourd'hui et du recul qu'on a sur les gens. C'est formidable.
Après cette petite leçon de journalisme offerte par Maxime Dupuis.
On pourrait parler du match du PSG aussi.
On pourrait parler du match du PSG, effectivement.
C'est un grand journalisme.
Exactement. Maxime, il a des combats.
J'ai envie de revenir au classique et au basique. Ouais. Plus j'avance dans le temps, plus je me dis.
Et Dieu sait que tu as avancé là dans le temps.
Et Dieu sait si j'ai avancé dans le temps. Voilà.
Au crépuscule de ta vie, Maxime, tu es en train de vouloir retourner au basique.
T'as le crépuscule là. J'espère qu'il va durer un peu quand même.
Ouais, j'ai été un peu dur.
On n'a pas demandé.
Oui, on n'a pas demandé, mais.
Quelque chose à dire sur Hugo Lloris ?
Non, je l'ai senti très en colère.
Ouais, il nous a senti très en colère.
Le
deuxième sujet.
Si lequel est alors on dit c'est Prune, c'est ça, qui nous dit qu'on était très en colère sur le deuxième sujet.
C'est vrai. Mais c'est lui le plus en colère des deux quand même. On est d'accord. Ouais, bah oui, c'est Maxime.
Bah voilà, oui, mais moi c'est.
C'est un gros bavard.
Non, mais
donc
moi.
Donc là,
ça...
on a un regard extérieur avec donc deux jeunes filles de troisième, c'est
troisième.
Ça. Troisième. Qui viennent de nous dire que Maxime est le plus en colère. C'est le petit tout rouge qui râle tout le temps, qui parle tout le temps.
Non.
Et ben je trouve que tu vois, c'est la première émission auxquelles elles assistent et je trouve qu'elles vont viser tout
mais
à fait juste.
Est-ce que ce que je disais, est-ce que ça vous parlait ?
Non,
c'est vrai, c'est tout à fait juste, dit-elle.
Voilà,
un peu. Parce que ça m'énerve. Mais moi, je suis du côté des petits, moi, pas des puissants.
On dévoilera pas tout de Maxime Dupuis, mais.
Voilà, c'est la passion, voilà. Ouais, et le journalisme, c'est la passion.
Ouais, voilà. Mais alors, Maxime, juste, voilà, je l'ai déjà dit ici plusieurs fois, mais choisis tes combats. Une petite tisane de temps en temps.
Celui-là, il est pas mal comme combat.
Celui-là, il est pas mal, mais juste.
C'est pas moi qui ai proposé le sujet.
C'est pas la peine de pour tout, parce que tu vas finir avec un AVC à 45 ans. C'est pas bon pour ta santé de t'énerver.
Ça veut
comme
dire qu'il approche là quand même.
Ouais, non, à 45 ans, allez, je te le mets à 47. Là. Je te donne 2 ans de plus. Mais non, mais ménage-toi, Maxime. Ménage-toi. La vie est belle quand même.
La vie est belle. Mais c'est vrai que ça m'agace. Je pense aux supporters lorientais.
Ouais.
Voilà. J'avais un sujet en revanche, mais on n'en a pas parlé. Mais c'était un peu ça, le mercato d'hiver. Mais ça, on pourra en parler la semaine prochaine.
Ouais, bah, de toute façon,
un autre combat.
On en parle tous les ans. Merci à tous de nous avoir suivis dans ce nouveau numéro du FC Stream Team. Merci à...
Vas-y.
Merci à Antoine à la réalisation, à Quentin au visuel.
Merci à Prune et Louise.
Voilà, qui ont été quand même de fines observatrices.
Ouais, mais jusqu'au bout.
Jusqu'au bout, elles ont tenu.
Et elles ont tenu toute l'émission.
C'est vrai.
Ça doit faire une demi-heure, ce qui, à l'échelle de leur jeunesse...
De leur vie. Fait, c'est la moitié de leur vie.
Correspond à peu près à, ouais, au moins 3 ou 4 heures.
Ouais,
donc
exactement.
Bravo.
Bravo, tout à fait. Le FC Stream Team n'est pas encore sur TikTok, Maxime, mais peut-être qu'on y viendra.
Peut-être, ouais.
Si c'est...
Ouais, ça fonctionnera.
Je te verrai faire des petites chorées, là.
Ouais, ça fonctionnerait, je pense.
Sur Free From Desire.
Ah, j'aimerais Maxime, j'aimerais bien, Maxime.
On se donne rendez-vous la semaine prochaine, non pas sur TikTok, mais bah, en podcast ou en vidéo sur le site d'eurosport.fr. Merci beaucoup. Ciao, ciao.
Salut.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.